À qui le tour ? Bonjour, merci de nous écouter. On est ensemble jusqu'à 19h, du rock, de l'info et des cadeaux. C'est votre magazine d'actualité régionale quotidienne. Tout à l'heure, après les infos de 18h, nous lirons à l'antenne vos critiques de films postées sur cfmradio.fr comme chaque mercredi. Ces critiques de films qui sont les vôtres et que nous lisons à l'antenne vous permettent chaque semaine de remporter des places de cinéma à gagner. Si vous n'avez pas encore tenté d'être critique de cinéma pour CFM vous-même, eh bien jetez une oreille tout à l'heure et vous verrez que c'est à la portée de tous de pouvoir remporter ces places de cinéma. Donc juste après les infos de 18h, vos critiques de films à l'antenne, et puis ensuite nous nous intéresserons au 10e Mobile Film Festival. Oui, vous avez bien entendu, le Mobile Film Festival, c'est un festival de films filmés avec les appareils, les téléphones mobiles, voilà, tout simplement. Et donc on en parlera avec Bruno Smadja, qui est le créateur de ce festival de films, et puis également avec Lionel Nakache, qui lui est le lauréat du meilleur film mobile 2015 avec son film J'ai grandi. Et d'ici là, dans la première partie de cette émission, nous allons discuter avec Yves-Éric Desmoulins, directeur de la délégation du Lot et du Tarn-et-Garonne de l'Association des Paralysés de France. Il va être question de la loi du 11 février 2005. Eh oui, on est bien le 11 février, donc il s'agit en fait des 10 ans de l'anniversaire de cette loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Alors, est-ce que Yves-Éric Desmoulins est tout à fait satisfait de la mise en place de cette loi 10 ans après ? M'est avis que pas tout à fait. À de suite. Radiohead, Karma Police sur CFM et on accueille donc Monsieur Desmoulins, Yves-Éric Desmoulins, directeur de la délégation du Lot et du Tarn-et-Garonne des Paralysés de France. J'ai envie de vous dire bon anniversaire quelque part puisque vous avez dû travailler déjà il y a plus de 10 ans pour la mise en place et la réalisation de cette première loi qui était donc du 11 février 2005 la loi pour l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées.
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est vrai 10 ans plus tôt et même un petit peu plus puisque 2003-2004, nous avions, avec d'autres associations, avec la société civile, essayé de penser à une société plus juste. Qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre à des personnes moins visibles, moins actrices, pour les rendre plus et leur permettre. Et c'est ainsi qu'est née cette loi pour la participation sociale, la loi de 2005.
Alors la
qui
loi
a un titre à rallonge. Hein.
Le titre à rallonge, c'est pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Voilà, ça voilà. C'est le nom de la loi.
Vous comprenez que je n'ai pas mémorisé l'ensemble du titre et puis que pour la plupart des personnes de la société civile, ça présente un petit peu une incongruité. Mais en tant que telle, cette loi avait mis sur pied des avancées et pas les moindres. La première avancée, c'est le terme de compensation. La place de la compensation pour des personnes diminuées ou en difficulté était un des axes forts. Donc, permettre que des systèmes donnent une possibilité autre à ces personnes rendues moins dans l'action, moins dans la visibilité, moins voilà. Ça, c'était un des principes de base.
Il y avait un autre. Quand on parle de compensation, on parle d'allocation, par exemple.
Par exemple, mais pas uniquement. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant va pouvoir aller à l'école s'il est handicapé?
Le fameux adjoint de vie.
Pas uniquement. Il y a tout l'ensemble de l'éducation nationale qui a pris en compte la globalité des différents enfants, des différents handicaps, pour leur permettre de rejoindre ce dispositif d'État qui sur lequel on compte tous, bien entendu, hein, qui est très important pour devenir citoyen, pour devenir un adulte. Voilà. Et ça, c'est le principe de cette loi, c'est de permettre de compenser des difficultés de certains pour leur permettre d'accéder à des lieux, à des endroits, à des moments où antérieurement c'était beaucoup plus difficile. Donc ce principe-là a été vraiment fort dans cette loi et il s'appliquait sur plusieurs thématiques. On a parlé de l'école, mais sur l'emploi, sur l'accessibilité, sur l'accès aux droits, donc avec la Maison départementale des personnes handicapées, les MDPH.
Voilà, il y a les MDPH datent il y a 10 ans, de 2005. C'était vraiment un axe fort de cette loi qui était... l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir en un seul lieu... des personnes ressources qui puissent répondre aux questions, un endroit où on puisse avoir une écoute aussi quand on a dans sa famille quelqu'un qui est atteint d'un handicap ou qu'on est soi-même atteint d'un handicap.
Tout à fait. Ces maisons ont mission d'accueillir, d'écouter et de proposer une réponse aux problématiques des personnes avec une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qui va évaluer les besoins de la personne à son domicile si c'est nécessaire et faire une proposition à la personne dans le cadre de son projet de vie, d'amélioration de sa vie. Et ensuite, grande nouveauté, c'est aussi que l'ensemble de la société civile, de par ses représentants, est partie prenante de ces décisions en faisant partie de la commission des droits. Il existe une commission des droits au sein de la MDPH qui rassemble des membres de l'État, du Conseil général, de la MDPH, des professionnels, mais aussi des associations représentées par leurs pairs qui donnent un avis collégial sur les dossiers qui sont présentés. Et ça, c'est un des points forts de cette loi, c'est permettre que des droits soient octroyés en compensation de problématiques du handicap, mais avec une thématique d'égalité plus forte.
Alors ça, c'était donc encore un des piliers de cette loi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette loi qui fête ses 10 ans aujourd'hui même, jour pour jour? Quand on parle d'accessibilité dans les transports, par exemple, aujourd'hui, et d'accessibilité dans les restaurants, dans tous les lieux publics, ça aussi, ça a été inscrit dans cette loi du 11 février 2005.
Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Il était donné un délai de 10 ans pour tous les établissements qui reçoivent du public, appelés ERP, pour se mettre en conformité avec les réglementations, les normes de tout type de handicap visuel, auditif, moteur, physique. Donc, 10 années pour que la plupart des décideurs, des gestionnaires d'établissements puissent envisager une modification, des améliorations, des délais aussi, puisque financièrement, si ça représente un coût, il faut imaginer, sur plusieurs exercices financiers, le mettre à l'ordre du jour. Ce qui a été fait pour certains établissements, certains bâtiments appartenant aux collectivités, à l'État, au privé. Et pour d'autres, ça n'a pas été fait. On considère que 40% à peu près des bâtiments ont été modifiés, aménagés sur l'ensemble du territoire français, mais ça représente pas beaucoup, 40%, quand vous imaginez que qu'une personne puisse accéder à un lieu pour des démarches administratives. Les écoles, par exemple, ont fait des grands efforts, hein, les municipalités principalement, les conseils généraux, la région, l'État, hein, pour tous les corps de bâtiments. Mais le principe d'accessibilité, c'était permettre à plusieurs typologies de handicap. Dans cette loi, on prenait en compte un petit peu plus qu'auparavant le handicap visuel, le handicap auditif. Mmh. Par exemple, une boucle magnétique, c'est un système qui permet à des personnes malentendantes, lorsqu'elle est devant un guichet, d'installer sur son système d'audition, d'amplification à l'oreille, une autre amplification qui permet d'être en communication avec la personne qui accueille. Ça, c'est un dispositif rendu réglementaire. Pour les personnes malvoyantes, aujourd'hui on aperçoit beaucoup de bandes podotactiles sur la voirie. Ce sont des sortes de plaques avec des picots.
Oui, comme ça, quand on marche dessus, on sait immédiatement, on a un repère. Hein,
voilà, qui donne un repère de positionnement dans l'espace, sur la voirie.
On a ça sur les fins ou les premières marches
des escaliers.
Des escaliers aujourd'hui. Oui, oui. Ça vient de cette
voilà,
loi.
Voilà, tout à fait. Hein. Ces éléments-là architecturaux n'existaient pas antérieurement en tant que réglementaire. Ils existaient, on avait pu le constater dans d'autres lieux, mais ils n'étaient pas obligatoires. Et donc, cette loi a permis que des évolutions aient lieu, que des décideurs prennent conscience des évolutions aussi qu'ils avaient à mettre en place, où ils avaient déjà anticipé, où ils avaient...
Donc il y a eu un mieux.
Oui, hein. Oui. Oui.
Il y a eu des effets à cette loi pour lutter contre le handicap du 11 février 2005. En fait, aujourd'hui, c'est 10 ans. Mais si l'Association des paralysés de France et les autres associations d'usagers porteurs de handicap manifestent aujourd'hui, comme par exemple cette opération Escargot qui s'est déroulée à Toulouse et à d'autres endroits partout en France, c'est qu'il y a aussi un mécontentement. On passe un petit peu de publicité, Yves-Éric Desmoulins, et puis vous nous dites pourquoi après.
CFM à Montauban. 101.2. 101.2.
J'aimerais tant varier les endroits où on sort. Avec ce budget si serré, chier et tracas pour des sorties sympas.
Plein de choses qui vont pas.
Absolue, c'est le guide
Pastime.
Il offre une large sélection de restaurants, de loisirs, de commerces, avec des réductions allant jusqu'à 50%.
Génial! Avec tant d'avantages, Pastime est accessible à tout le monde?
Oui, tu sors sans compter pour découvrir et redécouvrir. Voir conditions sur www.pastime.eu. Avec le guide Pastime, sortez plus, moins cher.
Vous parlez pour cher. Les MDPH, là, justement.
L'effet d'un ange. Plongé dans le monde extraordinaire des fées, des elfes, des anges et des dragons. Ils sont de toute taille et vous attendent nombreux. Découvrez aussi les bouddhas, les encens, les carillons, les minéraux et tellement d'autres choses. L'effet d'un ange, de rue Marcellin Fabre à l'angle de la place de la Collégiale à Villefranche de Rouergue. Boutique éveil et bien-être, conférence toute l'année, un lieu de rencontre, d'échange et de conseils. L'effet d'un ange, ouvrez vos chakras, c'est la Saint-Valentin. au bureau, restaurant, brasserie, pub lounge à Montauban, c'est formule le midi à 9,50€ ou carte midi et soir pour une restauration traditionnelle à base de produits de qualité. Le 14 février, c'est la Saint-Valentin chez Au Bureau. Venez partager un moment unique avec votre moitié, menu des amoureux sur réservation et concert de Fabrice Jousseau à partir de 22h. Informations et réservations au 05 63 20 41 49. Nous allons vous donner envie d'aller au bureau. Au bureau, face Cap Cinéma à Montauban.
De Mourico à Montpezat.
Vous écoutez CFM. 98.1.
Notre invité aujourd'hui, c'est Yves-Éric Desmoulins, directeur de la délégation du Lot et du Tarn-et-Garonne de l'Association des paralysés de France. Aujourd'hui, nous sommes le 11 février 2015, il y a tout juste 10 ans, une loi était portée, la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. On vient de voir juste avant la pub qu'il y avait du coup beaucoup d'avancées hein, pour lutter contre le handicap et pour lutter contre la discrimination des personnes handicapées grâce à cette loi. Mais évidemment, tout n'est pas tout rose, Yves-Éric Desmoulins.
Et non.
Quels sont les principaux défauts de la mise en place de cette loi aujourd'hui?
En fait, cette loi, elle allait sur plusieurs thématiques. Donc forcément, y a un défaut principal qui est la globalisation de la thématique handicap. Tout le travail antérieur pour prévoir les articles, il y avait 80 articles dans cette loi, c'est pas rien, et tous les décrets d'application qui sont sortis très rapidement dans l'année qui a suivi, tous les décrets sont sortis, ce qui voulait dire à l'époque une grande mobilisation du pouvoir politique pour appliquer, pour permettre d'appliquer. Donc c'était une grande avancée, mais ensuite, comme elle était sur plusieurs thématiques, forcément ça demandait un travail à l'ensemble des décideurs du corps politique, et comme l'État ou les conseils généraux, d'avoir une vision plus globale. Et on a demandé, nous, une interministérialité sur cette loi qui n'a pas été effective. Donc, par exemple, vous avez un texte sur la compensation, vous avez un texte sur l'accessibilité, un texte sur l'allocation adulte handicapé, sur la prestation de compensation. Voilà, tout ça, c'est vrai que ce sont des termes un petit peu barbares pour l'auditeur qui ne comprendrait pas, qui ne soit pas dans la thématique. Mais concrètement, c'est des effets et des actions portées pour les personnes. Concrètement, hein, ce ne sont pas que des termes comme ça. Donc ça, c'est un des écueils de cette loi, c'est de n'avoir pas pu la faire avancer en transversalité avec le décideur principal qui est l'État.
Voilà. Et puis elle n'a pas été suffisamment vite, suffisamment loin, puisque aujourd'hui la mise en place de l'accessibilité, notamment dans les lieux publics, est sans cesse repoussée. On parle aujourd'hui encore une fois d'un moratoire qui repousserait.
Alors. Pour préciser
l'obligation qui doit être faite
avant
maintenant.
De reprendre les délais sur deux sujets, il y a eu des avancées mais aussi des freins. La voirie par exemple, cette loi ne donnait pas l'obligation de passer les projets de voirie dans des commissions préfectorales. Aujourd'hui, il y a des commissions préfectorales pour des locaux qui se bâtissent ou qui se reconstruisent, mais pas pour les voiries. Or, une voirie est aussi importante qu'un bâtiment. Si vous pouvez pas accéder au bâtiment puisque la voirie n'a pas été refaite, vous accédez pas au bâtiment. Ouais. Et on a vu des porteurs de projets qui sont généralement les communes ou le conseil général, bon, qui ne travaillent pas le dossier voirie en concertation les uns avec les autres. Vous avez l'exemple aujourd'hui du devant de la gare de Montauban. Il n'appartient pas à la commune, mais par contre, il y a un arrêt de bus. Et l'arrêt de bus, il est sur quel territoire? Comment on fait pour que les différents propriétaires du lieu devant la gare, oui, se concertent.
D'un côté ERDF, de l'autre.
Vous voyez.
Oui.
Et là, il y avait personne pour arbitrer, pour dire vous devez le faire, et la loi ne le prévoyait pas en termes administratifs pour permettre que ce soit fait concrètement. Donc, ça veut dire que depuis 10 ans, l'arrêt de bus de la gare de Montauban, il n'a pas été réalisé. Si tout le monde passe à la gare, tous les auditeurs voient qu'il y a des travaux, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un travail qui a été fait, mais 10 ans plus tard. Ouais. Ça veut dire que pendant 10 ans, les personnes n'ont pas pu descendre du bus, celles qui étaient montées dans les bus et qui pouvaient atteindre d'autres arrêts, Autour de la gare de Montauban, il n'y avait d'ailleurs aucun arrêt, quasiment aucun arrêt qui permettait de rejoindre. Oui, vous voyez, ça c'est un exemple. Il n'y avait pas d'obligation.
Il y a un vrai manque de concertation. On a l'impression que cette loi, elle ennuie tout le monde. Moi, j'entends parler que ce soit à chaque fois qu'il y a un projet quelque part. Ah ouais, mais tu comprends, c'est compliqué parce que aujourd'hui, il nous ennuie avec. Je suis poli quand je dis nous ennuie avec les nouvelles normes parce que la porte s'ouvre pas, elle est pas assez large ou il y a pas la pente pour l'accessibilité au fauteuil roulant. Tout le monde prend ça vraiment comme une contrainte. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un déficit d'explication, c'est-à-dire que de dire que c'est pas une contrainte finalement, c'est pour que on puisse vivre tous ensemble. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, mais vous savez comment sont les Français? C'est un peu notre typologie sociologique. Ouais. On a besoin de râler, on a envie de râler d'ailleurs à chaque fois qu'il y a une nouveauté. Et puis au fur et à mesure des années, on s'y fait, etc. Là, pourquoi on s'y est pas fait vraiment? C'est parce que les mesures incitatives n'ont pas été forcément très très fortes. Et les mesures coercitives, encore moins. Il était prévu dans la loi 45 000 euros d'amende pour tout porteur de projet qui ne respecte pas les règles. Sauf qu'il n'y avait pas un gendarme qui vérifie et puis qui fait appliquer. Eh bien, derrière... les choses ne se font pas comme elles auraient dû être faites. Ouais. Il y a eu des manquements. Hein. Donc, vous voyez, ça, c'est un élément majeur. C'est que si vous voulez faire porter un changement majeur de société, il vous faut l'accompagner. C'est un principe. Et là, pour le coup, ça n'a pas été réalisé. Un autre élément que je voulais citer, on parlait tout à l'heure des transports, c'est l'obligation pour les autorités organisatrices de transport, les AOT, de réaliser un schéma directeur. Un schéma directeur, c'est donc... un plan qui prévoit des aménagements sur plusieurs années, pour l'accessibilité spécifiquement. Il y a beaucoup d'AOT qui n'ont pas fait ce schéma. Il aurait dû être produit pour 2008. Et aujourd'hui, il n'est pas encore fait.
Oui.
Pour de nombreuses. Et certains l'ont réalisé, mais partiellement. Bon, vous voyez, ça c'est un autre élément. S'il n'y a personne pour vérifier que c'est réalisé, bien, ça reste dans l'idée de la loi et... Et au concret, ça veut dire que des grosses villes, je prends l'exemple de Cahors, il n'y a pas eu de schéma d'organisation du transport pour des personnes à mobilité réduite. Et 10 ans plus tard, les bus sont renouvelés, ils sont achetés, ils sont aux normes, on va dire. Mais les arrêts de bus n'ont pas été modifiés.
Les bus, eux, sont aux normes pour l'accessibilité. Oui. Mais comme il y a toujours une marche de toute manière au niveau de l'arrêt de bus, ça fonctionne pas, quoi.
Voilà. Et les élus, qui sont les décideurs, ils n'ont pas la conscience du travail qui était réalisé. Ils nous disent mais attendez, on pourrait avoir une petite rampe qui sorte du bus et puis voilà, ils n'ont pas la conscience de la difficulté de la réalisation et ni la conscience des obligations qui sont les leurs.
Alors Yves-Éric Desmoulins, qu'est-ce qui se passe en ce moment au niveau des décideurs? Il y a une directive qui est proposée actuellement à nos députés, à nos sénateurs. Qu'est-ce qu'elle dit cette directive?
La directive, c'est une ordonnance.
Oui.
L'ordonnance ADAP. Beaucoup de gens connaissent déjà le mot, puisque l'État a fait en sorte de faire passer des arrêtés en décembre. Qui permettent à des gestionnaires d'établissements de préparer un dossier, de l'envoyer à la préfecture et de constater l'état d'accessibilité du bâtiment. Si c'est déjà le cas, il suffit de faire un document et de l'envoyer à la préfecture qui va donner une réponse. Si c'est la création d'un bâtiment nouveau, il y a toujours la procédure de permis de construire qui doit être déposée, ça fonctionne toujours. Mais la nouvelle règle qu'il serait... Je dis bien serait, puisque c'est pas encore ratifié, qui serait applicable, c'est de permettre un délai un petit peu plus long, entre 3, 6, 9 ans. Donc ce délai, aujourd'hui, nous, les associations, les 39 associations signataires du pacte, nous disons, on est contre. Pourquoi? La loi de 2005 avait donné déjà 10 ans pour permettre à des personnes d'aménager. Et l'accessibilité, c'est pas un sujet nouveau. Ça date de la loi de 75, donc ça veut dire 40 ans. Sauf que la société ne l'a pas pris en compte. Donc, permettre encore d'être laxiste sur ces délais, ça va faire en sorte que les décideurs vont se dire, finalement, c'est pas très grave. On nous donne encore du délai, on va pouvoir aménager, on va pouvoir négocier avec ces réglementations-là. Mais ce qui n'est pas négociable, c'est la place de tous dans la société. Ça, c'est pas négociable. Et les associations de personnes handicapées, elles disent, ben non, ça suffit. Aujourd'hui, on peut encore pas prendre le bus. Aujourd'hui, on peut encore pas accéder à des établissements. Aujourd'hui, c'est encore difficile d'avoir nos droits qui soient bien suivis dans les maisons départementales et personnes handicapées. Il y a certaines maisons départementales qui ont 6-8 mois de délai de traitement de dossier. La loi prévoit 4 mois, réglementairement.
Ouais. Donc, on voit bien que là, il y a quelque chose qui est un peu... Qu'est-ce que c'est? C'est au niveau des associations, il y a eu un peu moins de lobbying, vous avez fait moins le forcing, vous êtes fait moins entendre, Yvéric Desmoulins.
Je crois pas qu'on ait fait moins de forcing, je crois pas qu'on ait fait moins de lobbying, je crois même qu'on a été un petit peu plus fortement entendu à certains moments. D'ailleurs, certains députés, je crois qu'aujourd'hui, il y a une douzaine de députés qui disent on va pas ratifier cette ordonnance. C'est le 28 février que le gouvernement a l'obligation de représenter cette ordonnance devant le Parlement et les deux chambres devront se positionner.
Donc c'est le moment de justement de se faire entendre.
Il n'est pas trop tard. Mm-hmm. D'ailleurs,
il y a une pétition, quelque
chose. Valérie Rabault, députée du Tarn-et-Garonne, s'est engagée à ne pas signer ce texte en l'état et à voter contre. Elle nous l'a précisé. Elle a dit vous pouvez communiquer sur ma position. Des pétitions, oui, il y en a qui circulent déjà depuis bien longtemps. Ouais. Reflexhandicap.org, vous allez trouver une pétition à signer. De nombreuses associations font aussi du travail pour aller voir les politiques, les décideurs et transmettre les positions, ce qui est notre cas avec l'Association des Paralysés de France. Mmh. Hein, les membres de l'association qui sont eux-mêmes concernés ont rencontré les décideurs, les maires, les députés, pour présenter les différentes les points d'achoppement qui sont très nombreux, hein. La souplesse de la procédure, les délais, le transport public, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y avait des règles. Aujourd'hui, elles sont mises au calende grec. Le respect aussi de la ratification de la convention de l'ONU. On en parle très peu, mais finalement, la France a ratifié cette convention il y a très peu de temps, je crois que c'est 2010, qui signale que les droits des citoyens sur l'espace européen, ils sont ceux-là, et chaque État qui ratifie est susceptible de les faire perdurer et de les maintenir. Sauf que dans cette ratification, il y a les droits des personnes handicapées.
Alors, si les gens veulent vous soutenir, je sais pas, il y a un site des associations de paralysés de France pour le Tarn-et-Garonne, le Lot, là, par exemple.
Oui,
c'est au niveau national, là.
Oui, tout à fait, mais il y a des liens, vous savez, hein, sur Internet. Ouais. Donc, on clique sur APF et on trouvera toujours des sites Internet qui vont vous donner les informations. Reflexhandicap.org, ça, c'est un autre site.
Et bien sûr, APF. Merci, Yvéric Desmoulins, d'être venu en parler ici aujourd'hui.
À vous.
Bonne continuation.
Au revoir.
CFM. CFM. Il est 18.